bonsoir. Vous écoutez la radio du bout de la nuit, enregistrée en direct et en public dans la cour de l'école des Beaux-Arts de Toulouse. Nous sommes ensemble de 22h à 1h du matin pour découvrir et recevoir les artistes, les musiciens, les commissaires et quelques débordements de ce printemps de septembre 2009. Là où je suis n'existe pas. Vous êtes sur Booster FM 89.1 et dans la cour de l'école des Beaux-Arts, nous sommes Jean-Yves Jeunet et Béatrice Méline.
Je suis pas d'accord, Béatrice. Je suis pas d'accord. Nous ne sommes pas des animateurs. On est là pour autre chose, on va mettre le feu à Toulouse. Nous sommes des artistes. On va raconter des blagues, on va danser. Ça va être énorme. Un karaoké, c'est pas une émission, c'est un karaoké.
Ok.
C'est une blague. On va vraiment animer. On va vraiment animer.
On va essayer de discuter, puis on va se permettre quand même des débordements. On n'est donc pas des professionnels, mais on reçoit des artistes qui sont... extraordinaire et ultra professionnel si on veut, puisque ce soir autour de la table on a Jim Shaw, donc qui est un artiste américain qui expose actuellement au musée des abattoirs dans le cadre d'une exposition qui s'appelle I Dreamt I Was Taller Than Jonathan Barofsky et dont le co-commissariat a été effectué avec Fabrice Strum qui
Bonsoir.
Est avec nous, merci. Donc co-commissaire de cette proposition et en l'occurrence pour la situation, traducteur de Jim Shaw.
Voilà, je vais faire mon mieux.
Voilà. Donc nous avons visité l'exposition rapidement, Jim Shaw, donc bienvenue. C'est une pièce qui nous a paru assez particulière dans votre travail. De par la situation, le contexte donc de cette proposition de travail qui vous a été faite sur place, in situ. Peut-être je fais une pause pour que tu puisses traduire.
This is a particular occurrence in your work, it seems, meaning that there was a specific context that was given to you as an offer for an exhibition and previous works that you had to deal with. Might you want to describe it for us and how you worked with that?
It's a long description. I learned very slowly what the elements, what the meaning behind the Picasso piece was, and then later that there was a Dali piece also. And I was just sort of accrued through reading things and having ideas. It just kind of all added up. I was working in between all of these these parameters and coming up with the visual elements that way.
Ça a été un processus très long. J'ai d'abord appris que j'allais faire une pièce en face du rideau de scène de Picasso. Et puis, petit à petit, est venu subrepticement s'insérer le Dali. J'ai ensuite fait beaucoup de recherches sur ces deux objets et toutes sortes d'éléments et de variables et de paramètres sont venus s'ajouter les uns aux autres dans la préparation de mon travail.
Est-ce que ce point de départ était une contrainte ou un vrai trésor?
Was the fact that those two pieces were there for you to work with, did you feel it as a constraint or was it a bonus? Was it a treasure?
Well, when I got past the idea that I was supposed to stick something in front of this Picasso piece, it was a bonus. It's good to work within restrictions. If you have no restrictions, then it's hard to think about everything.
Ça a été au départ, ça a été difficile pour moi d'imaginer confronter Picasso, mais une fois que j'ai dépassé ce problème, ça a été un vrai bonus, un vrai trésor, ces restrictions. Il y avait beaucoup de pensées et d'idées qui étaient déjà contenues dans ces pièces. Et il y a des restrictions fortes, ça donne la possibilité de ne pas avoir à réfléchir à tout et à se concentrer
La complication, c'est que dans ce projet-là, vous 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 rendez un hommage à Jonathan Borowski et que la chose est en effet compliquée parce que cette comparaison se fait à l'aune de deux autres grands artistes modernes, Picasso et Dali. Donc cette quadrature est très complexe à organiser.
What may seem complicated for the viewer and maybe for you is that this is also an homage to Jonathan Borowski, and at the same time you are between two great modern masters, two great modern monsters of 20th century art. So the triangulation between all of those different elements may seem like quite a complex undertaking.
Well, it's meant to be complex. There's also a fair amount of reference to Herb Bloch and Led Zeppelin in there as well, along with many, many other influences. It's sort of the Harvey Kurtzman conglomeration of details approach to art making, as opposed to the stripped bare analysis approach.
C'est censé, c'est en effet complexe, mais c'est censé l'être.
Will Elder would be the more appropriate.
Okay. I'll say it. C'est censé, là je vais me permettre de faire une traduction avec quelques toutes petites parenthèses pour l'auditeur français. C'est censé, c'est en effet complexe, mais c'est censé l'être. En plus de Picasso, de Dali et de Borowski, il y a aussi de nombreuses références à Herb Bloch. Et là, une petite première parenthèse, c'est un caricaturiste, un dessinateur de presse extrêmement célèbre aux États-Unis qui a travaillé dans les années 50. Il y a aussi de nombreuses références à Led Zeppelin. Et c'est plutôt qu'une façon synthétique et minimale de faire de l'art, c'est une façon de faire de l'art qui est un modèle qui rend plutôt hommage à Kurtzman et Will Elder. Et donc Kurtzman et Will Elder, pour nos auditeurs français, sont les créateurs de Mad Magazine, qui était un journal satiriste américain dans les années 50, qui a non seulement transformé la bande dessinée, mais qui est aussi le premier magazine de masse culturelle qui se moque de l'intérieur de la culture de masse et qui a beaucoup de critiques culturelles américaines pensent que ce magazine qui a été publié dès le début des années 50 est une des causes de la contre-culture, enfin que ça a vraiment eu l'effet d'une bombe. Et en fait, c'est un agrégat de détails et de complexité de signification et de signes qui s'entassent les uns dans les autres et qui a été fait pour de jeunes adolescents qui ont appris donc à lire beaucoup de signes de manière très complexe, très jeune, dans un magazine qui leur était destiné.
D'accord. Tant qu'on est peut-être à resituer le champ de référence, l'univers, est-ce que vous pourriez nous parler de Jonathan Borowski?
Just to give us a bit of background, it's true that he's quite unknown in France as opposed to other countries like Switzerland or Germany where he's much better known. Can you tell us a little bit about Jonathan Borowski?
Well, Jonathan Borowski was a teacher at CalArts when I was a student there, and he had come out of conceptual art, but his work was sort of slowly making its way into a very interesting messiness. And I didn't quite realize it at the time that a lot of things that I was doing later were very similar to things that he had done in the 80s. And part of the piece is meant to address my own forgetfulness, but also the art world's forgetfulness that, you know, we all have predecessors.
C'est un artiste qui a été professeur de l'école d'où je sors, CalArts. Ça n'était pas mon professeur directement, mais un prof qui était à l'école, qui vient de l'art conceptuel, mais qui, dans les années 70, à la fin des années 70 et au début des années 80, a commencé à faire un travail beaucoup plus complexe et beaucoup plus désordre. Et je ne l'ai pas réalisé avant un moment, mais je me suis rendu compte à quel point mon travail récemment a été influencé par le sien. Et cette pièce, plus qu'un hommage, est aussi une façon pour moi de rappeler, de soulever non seulement mon amnésie, mais l'amnésie collective du monde de l'art qui a tendance à remplacer l'ancien par du neuf, même quand le neuf en fait ne fait que répéter ce qui a déjà été fait.
He also had a group of students that were doing sort of corny political art wall paintings back in the 70s, and some of those are among the things that I was referencing in the piece, very specifically.
Une des choses auxquelles je me réfère très spécifiquement dans cette pièce ici aux abattoirs est qu'il avait un atelier où les étudiants se sont mis à faire des peintures murales à teneur politique assez kitsch et assez mal peintes, et plusieurs d'entre elles sont reproduites
dans l'exposition.
Si je peux me permettre de poser également peut-être une question, j'aimerais savoir si on peut demander à Jim de parler un peu de la question de l'engagement politique et du fait que cette pièce parle directement de la guerre d'Espagne et de l'engagement politique des artistes, de voir ce qu'il a peut-être à dire là-dessus.
Ouais, ouais.
À ce niveau-là.
Peut-être qu'on va vous laisser traduire la question et on va écouter un petit morceau de musique le temps de la traduction.
Parfait.
Voilà, donc on va faire une pause musicale tout de suite.
Vous écoutez la radio du bout de la nuit sur les ondes de Radio Éphémère et Radio Booster 89.1.
Bonsoir, donc c'était le groupe Turzi avec Attila Blues. On est de retour sur le plateau avec Jim Shaw. Et donc Jim Shaw a eu le temps d'entendre la traduction de cette question autour de son rapport un petit peu à l'engagement ou à des pratiques liées à un engagement politique dans la lignée un peu de ce mouvement qui avait lieu dans le cadre de ses études.
So. Well, after the 70s, political art had sort of a bad taste, and you know, it could be didactic or big caricatures of Ronald Reagan, things like that. But when I started working on this giant scale, doing backdrop paintings over old backdrop paintings, I kind of felt like at that scale something had to be a political cartoon. It was almost the only thing that was called for. And at the time it was during the George W. Bush era of American politics, so there was a little more urgency. You know, American politics are just very strange, and they almost have no meaning because America's just going to go out and do bad things regardless who runs it. It's like the big engine of free market capitalism, although right now it's kind of wounded. So the piece addresses a lot of odd aspects, you know, in my own relationship to politics. I remember being very embarrassed when I was marching against the war, having to chant things or going to rallies. I always thought that the chants sounded idiotic, even if I agreed with the goal. So I've always been a little bit alienated from the mass movements, and the specific meaning of the piece that the Picasso backdrop was done for was about the power of the people to affect history.
Après les années 70, l'art politique a commencé à avoir un goût un peu bizarre. Les choses sont devenues un peu didactiques ou alors vraiment, vraiment caricaturales. Et les gens qui faisaient de l'art politique, surtout dans les années 80, n'étaient pas véritablement pris au sérieux. Et ça ne nous semblait plus être une véritable option. Sauf que lorsque j'ai commencé, moi, à travailler avec des pièces de très, très, très grande taille, je me suis dit qu'avec ces formats, tout ce qu'on pouvait faire, c'était la seule chose qui justifiait ces formats, c'était de faire de l'art politique. C'était à l'époque de George Bush et surtout de sa deuxième élection, de sa réélection donc, et il y avait un sentiment d'urgence et de nécessité de faire de la critique politique à ce moment-là qui me semblait juste. Maintenant, naturellement, la situation a un peu changé. En fait, pas complètement, parce que l'Amérique reste l'Amérique et c'est le grand moteur d'un capitalisme incontrôlé qui va faire des choses brutales et violentes un peu partout. Et en ce qui me concerne personnellement, j'ai aussi essayé de traiter dans cette pièce ma propre relation à cette idée de faire de l'art politique et puis cette idée d'engagement. J'ai toujours eu un rapport ambivalent au mouvement de masse, y compris dans ma jeunesse, lorsque j'ai participé au mouvement contre la guerre du Vietnam. J'étais par exemple très embarrassé de chanter et de crier des slogans avec tout le monde dans la rue, même si je croyais fortement aux slogans qui étaient criés. Je ne savais pas, j'étais comme ça gêné de faire partie de cette masse informe auquel je prêtais en fait peu de pouvoir et peu de pouvoir réel. Et il ne faut pas oublier que la base du travail, c'est donc le rideau de scène de Picasso, et que celui-ci a été fait pour le théâtre du Front Populaire pour une pièce le 14 juillet qui exalte le pouvoir transformateur de l'histoire des masses.
Jim Shaw, j'aurais aimé vous poser une question qui a trait à l'exposition à Toulouse, mais de manière plus générale à votre œuvre en général. Votre œuvre tente à confirmer une intuition qu'on a quant à la manière dont nos deux continents, de part et d'autre de l'Atlantique, s'intéressent mutuellement l'un à l'autre. Je veux dire par là qu'on a vraiment l'impression que l'Europe s'intéresse à l'actualité des États-Unis. C'est l'actualité, cette espèce d'écume contemporaine dont on est gourmand, et qu'en revanche, les Américains ne peuvent s'intéresser qu'à l'histoire du vieux continent, à l'histoire de l'Europe. Je veux dire par là que, évidemment, vous puisez dans Freud, dans le surréalisme, cet ensemble d'hommages rendus à travers votre œuvre à des auteurs, à des penseurs, à des artistes qui sont européens, appartiennent à l'histoire européenne. Donc j'aimerais que vous expliquiez un petit peu, d'abord, si cette intuition est juste selon vous, et si oui, comment vous la ressentez ?
I want to ask you a question about this piece, but your work in general, in fact. I have an intuition, and I'd like to know if you think it's right or wrong, and if you could confirm it. And the intuition is as follows, is that the relationship between the U.S. and Europe is an odd one, in that Europe is fascinated by American news and American contemporaneity and what's taking place in America right now. And on the other hand, America is fascinated by European history, what takes place in Europe's past as opposed to European contemporaneity. And your work is, of course, extremely documented and gives an homage to many things. It's artists, to surrealism, to Freud, to a lot of things that actually belong to its history as opposed to belongs to its news and contemporaneity. And I'd like to know whether you could comment on my intuition, whether this is correct, and how you see this opposite kind of fascination that the two continents have for one another.
I wish that Americans had a greater interest in European history or contemporary events. Most Americans just care about America. I am sort of playing catch-up. I was an A history student, but it was in the American history system, which is not very good on European history, maybe English, but I'm now learning better a lot about the French Revolution. They didn't go into a great deal of detail in America, and I think that the American system, it's set up to teach you a lot of myths as a child, and by the time you're in high school, they tell you the truth, but the myths kind of crowd out the truths.
Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'en fait, aux États-Unis, on n'est tout simplement pas intéressé par l'Europe du tout, que ce soit sa contemporanéité ou son histoire. On est intéressé essentiellement par les États-Unis. Moi, personnellement, je suis en train de jouer un jeu de rattrapage où j'essaye de rattraper mon manque de connaissances sur l'Europe en m'intéressant à son histoire. Grâce à ce projet, par exemple, j'ai lu énormément et fait beaucoup de recherches sur la Révolution française que je pensais connaître dans ses grandes lignes, mais je me suis rendu compte à quel point c'était un sujet complexe que je ne connaissais pas. Peut-être que le problème aux États-Unis, c'est même pas qu'on connaît que l'histoire américaine, c'est qu'on connaît en fait très mal l'histoire en général. On apprend l'histoire, la véritable histoire, à partir de la fin du high school. Je connais pas le système français,
donc
je sais pas si c'est du lycée ou collège.
Oui, voilà.
À la fin du lycée. Avant ça, on raconte aux étudiants des mythes. Et même si à la fin de l'adolescence, on commence à raconter des faits de l'histoire, normalement, on leur a raconté des mythes pendant assez longtemps pour que finalement, à l'âge adulte, il n'y a que les mythes qui restent.
It's also probably easier to follow American politics in Europe than to follow European politics in America because there's all these different countries. Yeah. I try to keep up, but when I get to Africa, my eyes glaze over. It's it's more than I can possibly comprehend as far as African politics go.
C'est peut-être aussi plus facile parce que l'Amérique est un très grand pays et c'est un seul pays de suivre l'actualité. Vu des États-Unis, l'Europe est une constellation de petits pays et qui semblent extrêmement complexes et différents les uns des autres. J'essaye moi de suivre personnellement l'actualité des pays européens, mais ça s'arrête aux frontières européennes. Si on parle d'autres continents comme de l'Afrique par exemple, là tout devient flou et me semble tellement complexe et compliqué que j'ai même abandonné l'idée de pouvoir comprendre ce qui s'y passe au jour le jour.
Oui, il y a une autre question, alors peut-être plus plus centrale peut-être, mais qui concerne à la fois vos matériaux et vos obsessions. Le rêve, l'usage du rêve, les références à Freud et à l'interprétation des rêves dans votre travail. J'ai l'intuition aussi que le rêve vous intéresse comme nourriture, comme matériau de collection, à collectionner, et moins peut-être la théorie ou le système ou les procédures d'interprétation des rêves. Est-ce que vous vous parlez de la manière dont vous classez, collectionnez et faites usage des rêves?
I would like to ask you another question, one that is maybe more central to your work as a whole, which is the concept of dream and the way that you use it and really the usage of dream. You make references to surrealism. There is of course here a great tradition of in Europe of psychoanalysis of Freud and of a history of interpretation of dream. But again, I have an intuition, and I want to know whether what you might have to say about this, that you are more interested in dreams as a way to collect material than you are as a process to interpret things.
I am definitely interested in them as a way to collect material because I have a sneaking suspicion that a lot of great writing in the 50s was done on speed. A lot of great art in the 60s was done on LSD. I haven't really got access to these drugs, and my only way of tapping into that extreme flow of the unconscious creativity is through dreams or the occasional waking hallucination.
Oui, en effet, votre intuition est la bonne. C'est vraiment pour moi une façon de collecter du matériel. J'ai l'impression que beaucoup des œuvres qui m'intéressent des années 50 ont été faites sous l'effet de stupéfiants comme le speed, et celles qui m'intéressent dans les années 60 ont été faites sous l'effet du LSD. Et ne prenant pas de stupéfiants moi-même, j'ai l'impression que la seule manière que j'ai d'acquérir tous ces objets, de collectionner tous ces objets, de les faire rentrer dans un flux automatique et de passer par le système de collecte des rêves qui charrierait tout cela d'un coup, comme les drogues ont pu le faire dans d'autres générations.
I can interpret my own dreams, but I'm not sure that would be interesting to anybody else because I'm not a movie star.
L'interprétation ne m'intéresse pas vraiment. Je peux interpréter mes propres rêves à moi, mais je pense que ça n'intéresserait personne, et en tout cas pas les spectateurs de mon travail, vu que je ne suis pas un people ou une star de la télévision, du cinéma.
I think to some extent we're still living with Daniel's interpretation of Nebuchadnezzar's dream, which was, I don't know, 250 BC, something like that. It's still influencing us today.
D'une certaine façon, on n'est toujours pas sorti du modèle de l'Ancien Testament de Daniel et Nabuchodonosor. On est toujours là-dedans.
Peut-être une dernière question, puisque par rapport à cette question-là de la collecte de choses individuelles, vous parliez de ce manque d'intérêt que pourraient avoir peut-être vos rêves par rapport à un regardeur autre que vous. On sait aussi que vous avez une sorte de collection de peintures que vous achetez sur des brocantes, qui sont là pour le coup des peintures d'autres individus qui peut-être n'intéressaient qu'eux au début puisqu'elles ont fini dans ces brocantes. Et on était assez curieux, Jean-Yves et moi, de savoir qu'est-ce qui a pu motiver et qu'est-ce qui fait que quel intérêt vous pouvez aussi avoir dans la construction de cette collection de donc de peintures, je crois, mais peut-être pas seulement.
Still on the subject of collecting, we are aware that you have been collecting a thrift store painting for many, many years, and that they form an ensemble and of works that probably interest no one but the people who have made them, since they end up in thrift store. And we wanted to know whether you could tell us a little bit about the collection and explain to us how you came about to doing that and what place it has in your work.
Well, I'm just the curator. Uh-huh. And to me, it's a before I had a daughter, I had more time to go to thrift stores. So I don't really do it that much as much as I used to. But it was a way of being an archaeologist of American culture and the American subconscious. So that's my interpretation. I've been to other people's collections of thrift store paintings, and they're entirely different from the ones that I picked up. When I see the prices being asked for them, it's all my fault, I guess. But I try to stick to my no more than $25 rule, because otherwise, well, I had to unload the collection because it was I had no place to store it. It just took up too much space, and it wasn't being seen by anybody. I am an inveterate collector, and it's one of my curses. Trying to get over this.
De cette collection, je ne me considère que le commissaire de l'exposition, de cette exposition de tableaux de brocante que je collectionne. J'ai dû plus ou moins abandonner cela avec la naissance de ma fille. Avant, c'était vraiment une passion dévorante. J'agissais un peu comme un archéologiste de la culture américaine et de quelque chose qui pourrait être une forme d'inconscient collectif qui n'aurait pas été médiatisé et beaucoup plus brut que quelque chose qui sortirait des écoles ou d'un système de l'art. J'ai visité de nombreuses collections de tableaux de brocante, et en fait je me suis rendu compte que chacune est véritablement différente, en tout cas était différente de la mienne. Donc c'est vraiment une collection assez précise. Malheureusement, le fait que cette collection a été beaucoup montrée fait que les prix des tableaux de brocante aux États-Unis, je pense, ont monté. J'espère me guérir de cette maladie du collectionneur, mais c'est difficile.
Très bien. Merci mille fois à Jim Shaw et Fabrice Strong d'avoir été avec nous ce soir. Et la suite.
Maintenant. Alors, donc, nous allons cette fois-ci écouter un live de Sébastien Roux. Donc, Sébastien Roux, c'est le musicien qui, depuis le début de l'émission, propose des sortes de nappes sonores, voilà, qu'on entend légèrement, et qui maintenant va avoir une sorte de carte blanche pour les prochaines minutes.
Concert live. Concert live. Concert live.
Bonjour, je m'appelle Sébastien Roux. Vous allez entendre maintenant un agencement de pièces et fragments sonores réalisés durant ces deux dernières années. Ces éléments ont été composés soit en solo, soit en collaboration avec des musiciens, acteurs ou compositeurs. À l'origine du projet, il y a un principe de composition qui consiste à placer tous ces objets sonores du plus court vers le plus long. Dans la première partie, vous entendrez par ordre d'apparition Hubert Daniel, Lionel Hoche, Michael Schmidt Séverine Ballon, Valérie Dréville, Guillaume Greff et Robert Hampson. Bonne écoute.
Est-ce la mer qui arrive sur la côte ou la côte qui arrive sur la mer? Est-ce la terre qui interrompt la masse de l'eau ou l'eau qui limite la terre?
Dans la seconde partie, vous entendrez Valérie Dréville, Séverine Ballon, un ténor, Laurent Poitrenaud, Emma Morin, Kim Meir, une violoniste.
Les deltas sont aussi de ces endroits du monde où la terre et la mer se rencontrent à plat. La vague y est inexistante. Au mieux, il s'agira d'un mascaret vague de l'intérieur des terres.
Avançant sur l'élan des marées.
Le mascaret glisse sous la surface de l'eau comme une bête creusant une galerie
rapide,
silencieux. Oh, sans déferlement. La vague ne survit pas dans les deltas. Elle y croupit. Elle s'enchevêtre dans les racines, les mollusques et les monstres mous. Elle s'aplatit et stagne pendant que l'herbe pousse.
Playing good music, we started doing like the whole like microwave dances. I don't know if you've heard of it.
Microwave.
That's when I taught everybody the microwave dance. Anyway, it became like really popular. Everybody started doing their dance. It's like where you do the where you like it's really stupid, but you. Something out, taking the thing out, and then dancing this whole time. And then you take it out, and you're like,
it's like the lawnmower.
It's exactly, it's like a sprinkler.
Vous écoutez la radio du bout de la nuit sur les ondes de Radio Éphémère et Radio Booster 89.1.
C'était Sébastien Roux. Nous allons recevoir maintenant Patrick Weidmann.
Patrick Weidmann, un artiste genevois en vacances à Toulouse, photographe, écrivain, théoricien de la bimboplastie. À lui la parole.
Le contenu d'une douzaine de préservatifs.
variés au cours de la journée. Des cœurs de femmes transpercés par des poignards sont retrouvés encore palpitants au pied des sols pleureurs. Ils attestent une ferveur romantique pour des jeunes poétesses orientées plein nord. Voilà qui est assez rare pour être mentionné.
Alors c'est un extrait de roman que je suis en train de composer, bricoler, mettre en pièces.
D'accord. Donc c'est une pratique que vous avez régulièrement de vous enregistrer
Oui, parce que je déteste les lectures d'auteurs. C'est une chose qui m'inspire là, une horreur un peu... comme un film d'horreur, donc j'essaie de trouver un moyen le plus ridicule, le plus ludique d'échapper à cette contrainte. Donc j'ai trouvé des instruments dans les magasins de jouets et dans les réminiscences un peu de vieil avocat un peu décati des années 80 pour augmenter l'effet de surprise qui n'en est pas une, comme vous savez, mais en même temps d'augmenter mon confort.
Moi, je voudrais savoir si ce début de roman a déjà un titre.
Oui, alors j'ai pensé à plusieurs titres. Alors c'est très intéressant, les titres, parce que les titres sont tellement idiots dans le monde du roman qu'il faut vraiment s'accrocher. Donc... J'ai constaté que l'espérance de vie était en progression depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe, partout dans le monde, sauf dans certains pays où ça recule, pour des raisons d'alcoolisme, etc., ou de maladies, etc. Mais on n'a jamais pensé à l'espérance de mort, qui est un tabou, et je mets en avant l'espérance de mort, qui est un facteur fictionnel extrêmement puissant, qui peut faire pièce à l'espérance de vie comme une espèce d'élastique existentiel qui serait pourquoi n'espérerions-nous pas la mort à un certain moment comme l'espérance de vie, c'est-à-dire qu'en contractant l'un, on pourrait même détendre l'autre. Contrairement aux apparences, ces deux espérances ne sont ni contradictoires ni concurrentielles, mais s'associent de façon joyeuse. Donc, je parle d'individus, de femmes, de poupées qui auraient une très forte espérance de mort comme un gage de longévité.
Alors moi, cet après-midi, j'ai lu Bimboplastie, un autre livre de vous, publié celui-ci, et je me suis dit que de l'avoir lu et de vous entendre ce soir semble être une introduction assez idéale pour parler de vos photographies, puisque vous êtes présent au Printemps de Toulouse pour montrer des photos à la galerie Candler, et j'aurais aimé que vous décriviez un petit peu ce qu'on y voit.
Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans une photo? Alors, je ne vois rien dans les photos, je suis incapable de voir quoi que ce soit dans une photo, surtout si elle est faite par un photographe. Je dis toujours, je m'intéresse jamais à ce que vous voyez. Je m'intéresse à ce que vous faites de ce que vous avez vu. Et de ce que j'ai fait avec ce que j'ai vu, je peux vous dire quelques mots. Alors j'ai vu des lieux des salons de l'automobile où je photographie des objets, des voitures, des objets qui sont des objets industriels mais un petit peu rendus étranges, des situations où le luxe et la culture populaire se rencontrent, des accumulations d'objets qui sont un peu abstraits parce qu'ils sont trop condensés, et aussi des fantaisies avec des objets que je concasse, que je maltraite dans un désir non pas de critiquer ou de vilipender, mais plutôt de stigmatiser les composantes qui sont très émotives, très instinctives, mais aussi qui sont des matériaux très concrets avec lesquels tout le monde travaille et tout le monde fabrique des objets. Donc il y a une sorte d'implosion de l'industrie dans une composition poétique qui n'en est plus qu'une espèce de cendre et de traces un peu vaporeuses. Et avec de la chance, j'arrive à en faire une surface un peu acerbe, un peu acide, un peu acidulée, qui relance tout l'intérêt qu'on peut avoir pour ces composantes.
Vous avez un café aussi ?
Mais est-ce que parmi ces composantes, il n'y a pas des choses qu'on pourrait nommer plus précisément, comme obscénité ou pornographie ?
Oui, alors, oui, on peut les nommer, mais elles sont, une fois de plus, comme vous savez, on est dans un monde où les réalités, les vérités n'existent pas vraiment, puisqu'elles sont soit médiatisées, soit vendues, soit achetées, soit diffusées. Donc, elles perdent de leur qualité, leur origine, et on les retrouve dans des situations, des postures tellement invraisemblables qu'on se demande même si elles ont existé. Alors, en effet, je spécule comme un méchant banquier stupide, idiot et avide sur cette fiction. Mais à mon niveau, donc dans un niveau comme ça très modeste, j'essaye de recaler tous ces éléments, ces surfaces, ces plateaux qui tournent, ces accumulations d'objets. J'essaye de leur redonner une sorte de seconde vie dans un monde qui est pire que le meilleur ou meilleur que le pire.
Oui. J'étais assez dans la journée de visite aujourd'hui. J'étais assez frappée par d'abord l'image qui est dans la plaquette. Enfin, l'image principale qu'on voit par rapport à votre exposition ici, c'est une photographie donc d'une sorte de pot d'échappement chromé mais complètement rutilant et même organique. Ça pourrait être aussi bien une pierre. Enfin, et ça pourrait aussi bien être une peinture quand on le voit réduit en petit format qui plus est. Et donc c'est assez drôle puisque dans l'expérience là de la journée, on a vu aussi l'exposition de Pierre-Olivier Arnaud à Duplex qui lui aussi travaille sur l'apparition de reflets, bon, une posture un peu différente, mais quand même, les deux choses m'amènent à penser à cette fascination pour le clinquant et peut-être d'une manière plus plastique là, dans votre travail, puisqu'on a vu aussi cette autre photographie qui est plus abstraite avec le miroir. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça ?
Alors, il y a avec le clinquant, il y a un malentendu. Bon, le clinquant a mauvaise presse, évidemment. Il est mal vu et à plus forte raison il est déconsidéré, mais moi je le considère comme un avatar, une stigmatisation du produit et du produit intérieur brut qui est ce qui nous concerne puisqu'on est en face de l'économie. Et que c'est l'économie et l'image qu'elle donne d'elle-même qui est souvent la substance avec laquelle on travaille. Donc ce pot d'échappement, en effet, est un fort symbole du luxe, de l'extravagance à laquelle peut se livrer l'industrie et de la désinvolture qui peut être produite annuler, écraser le désir de la classe moyenne. Dans un autre sens, j'utilise des objets extrêmement bon marché comme des boules de Noël pour créer des sortes de paysages un peu fantasmatiques et j'essaye d'une manière un peu fictionnelle de rejoindre ces deux univers parce qu'ils sont économiquement antinomiques mais finalement ils ont un résultat dont l'apparence est un petit peu similaire. Et c'est cette sémantique comme Baudrillard disait, il n'y a que l'inhumain qui est photogénique, l'humain ne peut pas être photogénique. Je pense que je procède un peu de cette façon dans mes assemblages.
Est-ce qu'on peut imaginer que vos influences, c'est toujours une question compliquée et un peu stupide, sont plus d'obédience littéraire que plastique ? Est-ce que vous êtes plus influencé par Ballard que par Martine Parr, par exemple ?
Oui, alors, bon, on a des influences culturelles qui sont vraiment très stratifiées. Alors, Ballard, c'est un bon exemple, le Ballard des années 70, peut-être. Alors, on va dire, oui, on est tous coincés culturellement entre Ballard, Bret Easton Ellis, Jeff Koons, et toute cette déferlante de signaux violents nous oblige à une réponse et à produire notre propre signe. notre propre défense, mais notre propre attaque. Donc, en effet, je produis avec une certaine joie renouvelée tous les jours une proposition qui crève la membrane entre ces lieux culturels qui nous sont à la fois très familiers, mais qui restent des choses très imparfaites et avec lesquelles on peut évidemment jouer, on peut s'amuser avec Ballard, avec Jeff Koons, comme on peut s'amuser avec Victor Hugo ou bien je sais pas moi, Isadora Duncan, non, ça n'a aucune importance. Donc je pense qu'il faut simplement choisir sa cible et envoyer et utiliser l'arme adéquate pour entrer dans la chair de ces substances.
Merci beaucoup, Patrick Bellman. On va faire une deuxième pause musicale avec Sébastien Roux, juste avant d'entendre des rêves critiques de Jean-Max Collard.
Écoutez la radio du bout de la nuit sur les ondes de Radio FMR et Radio Booster 89.1.
Donc on reçoit Jean-Max Collard qui est donc co-commissaire du printemps de septembre et qui là est invité moins en tant que commissaire tout de suite, mais plutôt pour nous proposer une forme qui s'appelle les rêves critiques. Et donc là c'est un des rêves critiques qu'on va entendre.
Je rêve une exposition Magritte, nuit du 15 au 16 janvier. Une exposition Magritte au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Étrangement, il y manque nombre de tableaux majeurs et dans plusieurs salles, on aperçoit seulement la trace de leur présence. Sur les murs, leur empreinte forme une suite de carrés vides qui s'intercalent parmi les autres toiles exposées. J'apprends plus tard, mais comment, sinon le vague souvenir d'une rumeur collective, la raison de cet accrochage lacunaire. Une grande rétrospective Magritte se déroule simultanément à Londres ou ailleurs, où sont partis la plupart des tableaux prévus à Bruxelles. Pour compenser cette absence massive de tant de chefs-d'œuvre, le Musée des Beaux-Arts a sorti de sa réserve de grands tableaux complètement inédits et jamais vus du peintre belge. Tous laissent apparaître un motif nouveau, inconnu de tous, encore dépourvu de tout commentaire, de toute explication, mais récurrent dans l'œuvre, puisqu'il forme déjà une série d'une dizaine de toiles. Une barrière de rondins de bois pourpre, comme de bambous rougeoyants, ponctuée d'une flamèche jaune, comme une torche, sans support et en suspension. Je rêve cette grille assez large de bambous rouges, qui est, de l'avis de tous, une découverte totale, un événement qui fait oublier la rétrospective de Londres, et qui laisse interloquer les commentateurs de l'œuvre. Et je reste fasciné par cette quantité de tableaux nouveaux où, à côté d'une forêt silencieuse, d'une cascade de pierres et de boules, Magritte fait apparaître cette large clôture de bambous rouges et proche de l'embrasement dont le mystère et dont l'énigme sont encore intacts, entre guillemets, absolument intacts.
Hey, Frère, ich bin sicher, frisch nur Eps. Sorghum? Frisch Sorghum? Oder Kasperle Funke? Ja, Kasperle Funke mit der dicken Antenne auf dem Dach, teleskopik.
Jean-Max Collard, merci pour cette lecture.
Je vous en prie.
Pas vraiment un exercice habituel peut-être pour vous.
Non, bah, c'est pas fréquent de faire des lectures, non. Ouais. C'est des écritures, oui, mais des lectures, non.
Oui, moi. Peut-être qu'on va commencer par vous présenter aussi. Donc Jean-Max Colla, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez commissaire associé à Christian Bernard sur le printemps de septembre de l'année précédente et de cette année. Vous avez aussi une présence assez forte en France avec la chroniqueur dans les Inrecuptibles. Et puis différentes contributions, 02, etc. Et par ailleurs, vous êtes aussi enseignant. J'ai découvert ça.
Oui, j'enseigne la littérature française à l'université de Lille 3. Et ça fait comme une sorte d'autre vie, parce que c'est très évidemment différent de l'art contemporain, du milieu de l'art. Mais c'est un peu ma maison, je veux dire, la littérature. En plus, moi, je suis spécialiste de poésie du XVIe siècle, donc ça n'a quand même vraiment rien à voir. Mais oui, je considère toujours ça comme ma maison. Voilà, c'est l'endroit un peu d'où je viens et où je reste quand même malgré tout. Voilà.
Alors, nous avons eu le plaisir tout à l'heure de parler avec Jim Shaw de ses rêves à lui, de ses rêves d'artiste, la manière dont il les classait, les thésaurisait sans avoir à les interpréter. Qu'est-ce que sont les rêves des critiques ? Quelle serait la différence ? Est-ce que vous les classez, vous les archivez ? Est-ce que vous les classez par ordre chronologique ou thématique ? Qu'est-ce qu'on en fait de ces rêves-là ?
Bah, déjà, je dirais je les sélectionne, puisque bon, j'essaye d'écarter quand même, je garde évidemment des rêves qui seraient trop personnels, qui n'auraient rien à voir avec l'art. Et puis j'essaye de noter, j'en note d'autres, mais... J'essaye de, quand je m'en souviens, de noter les rêves qui sont vraiment relatifs à l'art. Et pour vous répondre, Jean-Yves, moi je m'interroge sans cesse sur qu'est-ce qui fait que mes rêves n'ont pas, je dirais, le panache onirique des rêveries de Jim Shaw ou d'autres artistes. Moi je m'étonne toujours que mes rêves soient quand même un peu plats. J'aimerais bien parfois rêver de girafes dans des expositions, d'avoir des rêves plus sexuels, enfin voilà, j'aimerais, mais en même temps j'avoue que le rêve du critique est un peu pauvre, et cette condition en même temps je la trouve assez intéressante.
Alors, a dû se poser à un moment la question du style, la manière dont allait être faite la relation de ces rêves-là, une espèce d'homogénéité dans le rendu stylistique de ces textes-là. Ça aurait pu être plus lyrique, plus voilà. Comment c'est choisi le ton de ces relations de rêve ?
Ben, le ton, c'était... si vous voulez, pour moi, il y a le fait qu'effectivement, les rêves critiques, c'est évidemment la face... Pour moi, hein, c'est la face nocturne de mon activité diurne de critique d'art. Et donc, toutes les semaines, j'écris dans les Inrecuptibles. Donc, toutes les semaines, je dois écrire parce que j'ai une page à remplir. Et donc, les rêves critiques, le plaisir d'abord pour moi, c'est d'avoir des rêves qui ne sont qui sont liés à aucune actualité. C'est pour ça, par exemple, celui-là était un rêve du 15 au 16 janvier. Il n'y a pas de date historique, il n'y a pas de date hebdomadaire, je veux dire. Bon. Et donc, pour moi, c'est vraiment une sorte d'écriture un peu libérée de la commande, libérée du journalisme, libérée de la nécessité de devoir écrire cette semaine sur les expositions que j'ai vues.
Mais là aussi, vous vous trompez, parce que vous ne le saviez pas, mais un Magritte a été volé aujourd'hui.
Ah bon, mais c'est un rêve que j'ai fait il y a très longtemps. Pour moi, c'est ce premier rêve des soirées de la radio du bout de la nuit, c'est un rêve un peu classique, je veux dire. Et donc, c'est un rêve qui, du fait de commencer aussi avec Magritte, c'est un rêve qui est marqué comme ça par le surréalisme dont on parlait tout à l'heure, Jim Shaw. Et d'ailleurs, je me souviens d'une pièce de Jim Shaw, une des pièces de Jim Shaw, parce que qui est ce Père Noël sur une balançoire. Et ça m'a toujours intéressé parce qu'il y a une sorte de matité du rêve qui est même présente dans la sculpture. Et ça, je me suis toujours demandé, mais comment on peut en même temps essayer de retrouver, même si on sait que l'écriture du rêve est toujours une trahison, est-ce qu'on peut quand même essayer de retrouver cette matité du rêve ? Et donc, il y a un peu de naïveté de ma part, parce que j'ai toujours l'idée que j'écris les rêves... là où Benjamin conseille de ne pas les écrire juste au réveil, moi je les écris au réveil, même parfois un peu au milieu de la nuit quand j'arrive à me lever pour les écrire. Et il y a un peu cette naïveté que peut-être le rêve dit quelque chose d'une activité de critique d'art inversée et nocturne.
Alors moi j'en ai une autre question, justement, c'est-à-dire que au début du 21e siècle, où est admis admise l'idée d'une définition large, très élargie. Qu'est-ce qui vous fait dire au réveil que certains rêves ne sont pas de l'art ? Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté parfois ? Vous rêvez une posture, d'un geste, d'une rencontre et vous savez tout de suite que ce n'était pas de l'art.
Alors, oui, c'est vrai, mais c'est lié vraiment d'abord à la question de l'exposition. En fait, c'est ça qui est un peu mon médium nocturne. Et je trouve que c'est intéressant parce que je me dis toujours que le cinéma aujourd'hui est devenu le véhicule du rêve. C'est vraiment le cinéma qui est devenu une sorte de moteur visuel du rêve. Et on rêve d'une manière filmographique. Je me demande toujours comment on rêvait, par exemple, au XVIIe siècle. Et quand je lis Fénelon, par exemple, quand je lis Le rêve de Télémaque, je vois qu'on rêve en peinture, par exemple. Et donc, je pense que, pour moi, j'essaye de percer le fait que l'exposition, dans sa forme comme ça déambulatoire, ce serait peut-être mon véhicule du rêve. Donc, c'est d'abord ce médium, on va dire, qui m'intéresse. Après, c'est d'autres rêves qui sont liés de manière presque plus directe à une activité et à un milieu, c'est-à-dire que forcément, quand on vit dans le milieu de l'art, c'est un milieu qui a aussi, ça s'entend pas ce soir à la radio, mais c'est un milieu qui peut être dur, qui a un champ de force, qui est traversé aussi par des violences, par des jeux de position, et donc il y a évidemment des rêves d'angoisse, il y a des rêves de relations, il y a un rêve avec le galeriste et collectionneur Pierre Hubert, par exemple, où Pierre Hubert me reproche des propos que j'aurais eus dans un journal, et soudainement il ne me parle plus, et voilà, donc j'ai aussi des rêves de milieu, et je m'intéresse à cette idée, on pourrait peut-être faire une sociologie du rêve. Par exemple, moi je pense toujours que si j'étais boucher, ben je rêverais de la boucherie. Donc comme je vois beaucoup de critiques d'art, et ben je rêve d'exposition, ça me semble un peu logique, et je me dis que c'est le premier état du rêve, parce que souvent on dit c'est quand on atteint le rêve profond qu'on arrive à des choses intéressantes. Et c'est vrai que moi, je m'intéresse peut-être à la première surface ou au premier moment, ou alors au rêve le plus éveillé, quoi, au moment où on revient aussi un peu à la conscience. Donc voilà, je pense que le vrai rêve me manque encore, on va dire.
D'accord. Merci Jean-Max.
Je vous en prie.
Merci.
On vous retrouvera tous les soirs à Horrorfix. On s'est donné rendez-vous vous nous offrez un petit peu ce rendez-vous pendant les différentes soirées de la radio. Donc à 23h, on retrouvera un rêve différent chaque soir. Merci, on vous retrouve plus tard avec Christian Bernard.
Merci beaucoup.
Et donc là, on va écouter tout de suite une carte postale. Alors les cartes postales, ce sont des fichiers sons pour la peine, mais des souvenirs des artistes invités dans le cadre de l'édition précédente du printemps de septembre. Et en l'occurrence, nous écoutons tout de suite un extrait donc de la lecture performance qui s'appelle Vert Pâle, qui était proposée l'année dernière dans le cadre des soirées nomades du printemps de septembre par Marceline Delbecq et Benoît Delbecq.
Vous écoutez France Culture.
Quelque chose se prépare. On le sent bien. Ce soir, l'atelier de création radiophonique présente Jerk, un essai radiophonique de Dennis Cooper et Gisèle Vienne. D'après un texte de Dennis Cooper sur une musique originale de Peter Eberg.
Bonjour, je suis David Brooks. L'histoire que vous allez voir est vraie. basé sur ma propre expérience d'adolescent drogué, psychotique et meurtrier au début des années 70. Mais avant de m'installer derrière le Castellet là-bas et d'emprunter les voix de mes pauvres victimes et copains morts, je voudrais saluer le professeur Catherine Griffith de l'Université du Texas et sa classe de psychologie freudienne dans la lumière du postmodernisme. Quel nom à la con. Merci d'être venu. Maintenant, chacun d'entre vous devrait être en possession d'un portfolio. À l'intérieur, vous trouverez deux récits écrits par votre serviteur. Dans un instant, je vous demanderai de lire le premier. Plus tard, je vous demanderai de lire le second. Ils décrivent des sensations que je ne me sens pas encore capable de représenter avec les marionnettes, et ils me laisseront le temps de changer de décor, de préparer mes marionnettes et tout le reste. Maintenant, si vous me le permettez, je vais prendre ma place dans le Castellet. Mesdames et messieurs, veuillez ouvrir vos portfolios et lire le premier récit. Vous avez exactement 8 minutes. Merci.
Vous écoutez la radio du bout de la nuit sur les ondes de Radio FMR et Radio Booster 89.1.
Bonsoir. De retour dans la radio du bout de la nuit, nous recevons à l'instant Jean-Marie Blanchet et Sébastien Bonnier, qui sont donc deux artistes invités à Lieu commun dans le cadre de ce printemps de septembre 2009, et qui donc occupent ensemble l'espace du haut, sachant que donc au rez-de-chaussée se tient une autre exposition avec là donc des anciennes étudiantes de Christian Bernard. Donc on a pu voir cet après-midi votre exposition. Et Jean-Yves Jeunet avait une très bonne question à vous poser.
Sûrement.
Voilà.
Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir et puis dire d'abord qu'apparemment vous avez une très grande complicité. Je crois que c'est important de le savoir ou de le comprendre avant pour que vous parliez après coup de la manière dont vous avez conçu cette exposition, qui a trait à une idée du paysage, en tout cas ce que vous avez décidé ensemble de créer ou de donner à voir, c'est un paysage, et j'aimerais que l'un après l'autre, vous décriviez les éléments du paysage en question. Donc peut-être, Jean-Marie Blanchet, décrire ces pièces qui sont au mur de l'exposition.
Donc c'est en fait assez simple, c'est une série de peintures monochromes. Il y a deux types en fait de factures. Le mode de fabrication en fait emprunte un peu aux artisans tapissiers décorateurs, c'est-à-dire que la peinture est cousue et est assemblée comme on peut assembler un canapé ou une chaise. Donc il y a une série de grands formats en fait qui sont de couture simple et une autre petite série de petits formats qui sont des monochromes cousus avec une mousse en fait à l'intérieur qui permet de donner un relief, une sorte de boudin en fait à la peinture qui leur donne une étrange imitation d'un siège de voiture ou essentiellement un siège de voiture ou de canapé en fait.
Vous pouvez peut-être préciser le titre de cet ensemble.
Le titre s'appelle Simili, en fait. Alors, de façon évidente, parce qu'il renvoie au matériau qui est utilisé, qui est du simili cuir, mais aussi dans une idée plus simple, en fait. Parce que le simili, c'est une imitation de quelque chose, comme la peinture peut être aussi l'imitation du réel, bien que ce soit toujours un artifice, puisqu'une image n'est pas la réalité, en fait. Donc, l'idée du simili, c'était cette histoire du vrai et du faux, en fait, quelque chose qui ressemble. Et dans le simili aussi, il y a cette histoire d'un objet qui est familier, en fait,
oui.
Quelque chose qui renvoie à la sphère domestique. En fait.
Parce que votre travail, pour le resituer un petit peu, comment vous pourriez nous le mettre en perspective? C'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans une histoire de la peinture pour vous?
Bien évidemment, je pense que quand on fait de la peinture, c'est inévitablement la question de l'héritage, elle se pose en fait. Donc, on peut pas. Moi, ma sphère un peu historique, c'est les avant-gardes et puis le modernisme, la postmodernité, notamment. Enfin, j'utilise serait de façon très récurrente le monochrome et la grille, parce qu'ils sont deux motifs un peu de l'art du XXe siècle, en fait. Mais qui sont, en fait, un peu... Enfin, où je tente un peu de les mettre à mal, puisque le monochrome, en fait, je le peins, je le découpe et je le rassemble, en fait. Donc il y a toujours une espèce un choc léger, en fait, on va dire, ou une brutalité douce, en fait, qui est faite à la peinture. Dans d'autres séries, il y a des choses qui ont à voir aussi avec des surfaces écrasées, des choses comme ça. Où c'est comme si un peu je combattais mes pères, en fait, une espèce de lutte comme ça avec cette histoire dont j'arrive pas à me, des fois à me dépêtrer ou à me, une espèce de débat. Mais sur la question du paysage aussi, je voulais dire que pour moi, mais pour Sébastien, c'est très différent. Ma relation au paysage, elle passe essentiellement par la voiture, en fait, par les paysages que je traverse. Moi, j'adore prendre l'autoroute parce qu'en fait, je trouve que c'est l'autoroute un formidable objet pour avoir accès au paysage, en fait. Et peut-être c'est pas un hasard si les peintures qui sont proposées là dans cet espace ont un peu une facture de siège automobile, en fait.
Sébastien Vognier, même exercice, compliqué.
Oui, oui, exercice compliqué.
Paysage.
Moi, pour cette exposition, je présente un certain nombre de structures, une dizaine de pièces qui sont des structures en acier, en treillis soudés, qui est donc le treillis nécessaire à la construction du bâtiment. Et donc, ces structures... qui sont plus ou moins stables, plus ou moins équilibrées, sont recouvertes d'une chape de béton de 2 à 5 cm d'épaisseur. Donc dans l'espace d'exposition se déploient ces dizaines de pièces qui se rencontrent, qui sont parfois assez rapprochées, parfois un peu distantes. Ces formes en béton dont les plans se mélangent ont à voir avec l'univers du chantier, avec l'univers du chantier en construction ou en déconstruction. Ce sont des pièces qui existent un peu dans un univers comme ça d'entre deux. Elles sont, comme je le disais tout à l'heure, plus ou moins stables, donc elles sont dans un équilibre un peu incertain. Cette question aussi de l'équilibre incertain, c'est la question de leur propre nature aussi à exister dans cet espace. La façon dont elles se sont déployées dans cet espace d'exposition qui nous est proposé, c'est aussi l'expérience de la construction, l'expérience de l'exposition, d'un temps aussi où j'ai habité l'espace et où mon projet a évolué en même temps. Avec Jean-Marie, on avait évoqué des pistes de travail assez rapidement. Qui étaient aussi des pistes de travail en fonction un petit peu de la lecture de l'espace qu'on pouvait avoir. Et donc, à partir de ces pistes-là, on a chacun fait un peu le tri dans notre travail. Et puis, j'ai souhaité recharger une pièce que j'avais réalisée il y a 10 ans maintenant, et qui était un seul volume à cette époque-là, un seul volume en une structure... du même ordre, c'était acier soudé et puis chape de béton dessus, mais qui marchait de façon, qui fonctionnait de façon autonome, comme une sculpture. À ce moment-là, quand j'avais réalisé cette pièce pour ma première exposition à Paris, ça m'avait traversé l'esprit que cette pièce, elle pouvait exister de façon beaucoup plus déployée, en nombre. Au départ, quand j'ai commencé à travailler à lieu commun, j'ai réalisé une très grande pièce qui était pour moi aussi un point de départ. Cette très grande pièce a été fragmentée. Et puis la chute de ces morceaux, elle a été fragmentée, donc physiquement découpée, et la chute de ces morceaux a provoqué un petit peu l'assise que l'on connaît, que l'on voit des blocs actuellement. Voilà.
Très bien. Alors peut-être qu'il y a deux types de paysages qui sont mixés, amalgamés dans cette expositions, peut-être des paysages qui sont de l'ordre de l'intérieur, du domestique, avec des objets d'aspect mobilier, et puis des objets qui font plutôt référence à des phénomènes naturels, géologiques, dans votre cas. Mm-hmm. Peut-être reprendre avec Jean-Marie.
C'est évident que, pour moi, c'est évident qu'une peinture a à voir avec le mobilier, en fait, pour plusieurs raisons. D'abord parce que il est accroché, quand il est accroché dans un intérieur domestique, il fait partie un peu des meubles, en fait. Que sa facture aussi est faite de bois, de toile, et donc qui sont des matériaux aussi utilisés pour fabriquer des meubles. Et puis aussi que d'une certaine façon, que les toiles elles circulent d'exposition en exposition et qu'il y a tout ce travail de mise en caisse, de déplacement, tout ça. Donc il y a quelque chose qui a vraiment chez moi à voir avec le domestique, en fait, ou le... Mais chez Sébastien aussi il y a des réponses qui sont de cet ordre là du mobilier, en fait. Alors a fortiori en utilisant le simili cuir, ça a rejoué encore, ou ça a, d'une façon presque humoristique peut-être, du meuble, en fait.
On peut parler peut-être de ça est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur le déroulement, c'est-à-dire un rapport. On parlait avec Jim Shaw d'un positionnement politique. Alors c'est très délicat de projeter de la politique sur vos tableaux qui sont des formes très abstraites, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre par rapport, peut-être pas à ces tableaux-là en particulier, mais sur un rapport à des choix dans les matériaux de couleurs, un recours en fait à un principe de travail qui se limite uniquement à l'emploi de matériaux à la disposition proposés par l'industrie, par la grande, par la grande distribution. Ou est-ce qu'on peut parler de ça peut-être?
Un rapport politique.
Enfin, un choix en tout cas dans le rapport aux matériaux et à une certaine peut-être humilité, je sais pas.
Vous parlez pour la peinture en particulier.
Dans les premiers projets peut-être, dans les travaux plus.
De toute façon, c'est évident que dans mon travail, je l'envisage toujours par le biais de sa matérialité, en fait, de sa tactilité. Quoi. Cette histoire des matériaux domestiques, en fait, c'est un peu arrivé par hasard. C'est qu'un jour, tout simplement, j'ai acheté un fond de stock à une couturière, et il y avait dans ce fond de stock des rouleaux de simili. Voilà, moi j'aime beaucoup aussi parcourir les magasins de tissus. Donc c'est des choses aussi qui moi, de façon culturelle, me parlent de mon histoire, en fait. Hein. Alors après, je ne sais pas si là-dedans il y a un aspect politique. En tout cas, je sais que je ne codifie pas trop, en fait, mon travail. J'ai besoin que tout soit identifiable, en fait. À la fois les matériaux, à la fois les couleurs choisies, qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas sacralisé ou démesuré, en fait, qu'on puisse les identifier, même si c'est une peinture abstraite, en fait, que tout soit reconnaissable, identifiable, en fait. Je ne sais pas si je réponds bien. Je suis dans les...
Non, c'est une question un peu hasardeuse, somme toute, mais qui m'intéressait, parce que c'est vrai qu'on projette rarement ce genre de questions sur des formes plutôt abstraites.
Ouais.
Alors que je pense qu'aussi, on pourrait avoir une discussion là-dessus. Malheureusement... Oui.
Pardon.
Je
voulais juste rajouter, par exemple, l'idée du grand art ne m'intéresse pas, en fait. Il y a quelque chose d'une abstraction humble, en fait, une forme humble, en fait. Enfin, j'essaye en tout cas de rester dans quelque chose qui soit accessible.
Ouais, d'accord.